VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 17 février 2015. À la une ce soir.
Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. 11 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à Yamarkoumi dans l'état de Borno.
Et des centaines d'hommes du groupe islamiste ont par ailleurs attaqué la ville d'Askira Ouba.
Des accrochages ont aussi eu lieu au Cameroun.
Et c'est dans ce contexte de violence que les Nigériens ont battu le pavé aujourd'hui pour dénoncer les attaques de l'organisation djihadiste.
Un Niger impunément. Et Boko Haram l'a appris à ses dépens le 6 février dernier.
Reportage à suivre de notre correspondant à Niamey.
En Ukraine, les rebelles pro-russes sont entrés dans la ville stratégique de Debaltseve dans l'est du pays, déclenchant d'intenses combats.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Manifestation anti-Boko Haram au Niger. Des milliers de personnes ont protesté dans l'ensemble du pays contre l'organisation terroriste nigériane Boko Haram qui multiplie les attaques dans le sud-est du Niger. Le Niger sera le tombeau de Boko Haram, a promis le président Mahamadou Issoufou à Niamey devant les manifestants. En dépit des opérations de la coalition régionale mise en place pour combattre Boko Haram, la région du lac Tchad, frontalière du Nigeria, a été la cible de plusieurs raids des djihadistes depuis le début du mois.
Boko Haram, qui a encore frappé dans le nord-est du Nigeria, 11 personnes ont été tuées cet après-midi dans une nouvelle attaque suicide près de Biou. C'est ce que rapporte l'AFP citant un témoin. Selon un membre d'une milice locale d'autodéfense, l'attentat a été commis par 3 hommes à bord d'un tricycle dans le village de Yamarkoumi, dans l'état de Borno. Ils se sont fait exploser et ont tué 11 personnes, dont un civil, membre d'une milice d'autodéfense, et des enfants vendeurs de rue, a dit ce témoin dont le récit a été confirmé par un habitant du village.
Par ailleurs, des centaines d'hommes du groupe islamiste ont attaqué la ville d'Askira Ouba. Des accrochages ont aussi eu lieu au Cameroun, qui affirme qu'un millier de membres présumés de la secte ont été arrêtés. On fait le point avec Jacques Aristide.
Il s'agirait de plus de 1000 combattants et personnes liées à Boko Haram, d'après l'AFP, qui cite le colonel Joseph Nouma, commandant de l'opération Alpha, luttant contre le groupe terroriste. Il a précisé que ces individus étaient détenus à la prison de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun, avant qu'ils ne soient remis à la justice. Toujours dans cette partie du Cameroun, 5 soldats du pays ont perdu la vie lundi dans une série d'accrochages avec Boko Haram, l'armée camerounaise indiquant que 86 combattants du groupe islamiste ont aussi été tués. Nouvelle violence également au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont incendié lundi des habitations et des bâtiments publics à Askira Ouba, dans le nord-est du pays. Des milliers d'habitants ont dû fuir à cette ville de l'état de Borno, laissant derrière eux les malades et les personnes âgées, selon un témoin qui ajoute ignorer le sort de ceux qui sont restés à Askira Ouba à la merci de Boko Haram.
Et nous restons au Nigeria. L'ancien président Olusegun Obasanjo a quitté le parti au pouvoir lundi soir, 6 semaines avant l'élection présidentielle. Bagessi Koura nous en dit plus.
En déchirant publiquement sa carte de membre du PDP, le Parti démocratique populaire, Olusegun Obasanjo a réussi un coup d'éclat. L'ancien président, un pilier du parti au pouvoir, avait récemment accusé le président Goodluck Jonathan d'être prêt à frauder pour remporter la présidentielle du 28 mars. Obasanjo fut le premier président démocratiquement élu à la fin des dictatures militaires en 1999 et il jouit d'une large popularité. Son soutien à Goodluck Jonathan lors de son élection en 2011 avait été déterminant, mais les relations entre les deux hommes ont viré à l'aigre depuis. Obasanjo a récemment déclaré que Muhammadu Buhari, le principal rival de Jonathan pour l'élection présidentielle, saurait mieux comment combattre le groupe islamiste armé Boko Haram et faire reculer la corruption endémique dans le pays.
Cinquième et dernière réunion de suivi des donateurs pour le développement du Mali. Les travaux ont débuté ce mardi à Bamako. Cette réunion met face à face les autorités maliennes et le comité de suivi des donateurs qui avait pris l'engagement en mai 2013 à Bruxelles de venir en aide au Mali avec 3,3 milliards d'euros dans sa politique de reconstruction. La rencontre de Bamako doit faire le point sur les différents décaissements. Kassim Traoré.
En mai 2013, la communauté internationale s'était engagée à aider le Mali. Plus de 3,3 milliards d'euros avaient été promis. Annick Girardin, secrétaire d'État français chargé du développement et de la francophonie.
La France, pour sa part, avait promis à Bruxelles un appui sur 2 ans. Elle a tenu ses engagements et elle a même dépassé. Fin 2014, c'est un total de 310 millions d'euros que la France aura engagé en faveur du Mali.
Les pourparlers d'Alger ont été abordés au cours de cette rencontre. Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord.
Si voudrais-je réitérer ici l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre ces négociations dans un esprit constructif, inclusif, afin d'aboutir le plus rapidement possible à la signature d'un accord de paix.
Le premier ministre malien a salué la solidarité de la communauté internationale, Modibo Keïta.
Le gouvernement du Mali, malgré toutes les difficultés, n'a jamais perdu de vue la nécessité de mériter la confiance de ses partenaires et de s'engager à mettre en œuvre tous les engagements auxquels il a souscrit. Je le réitère ici, nous ferons tout pour mériter de votre confiance.
Cette 5e réunion de suivi est la dernière. Elle doit permettre aux pays donateurs qui ont promis de faire le point de leurs différents décaissements en faveur du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nouveau combat dans une zone pétrolière au Soudan du Sud. Les belligérants sud-soudanais se sont affrontés aujourd'hui dans le stratégique état du Haut-Nil, riche en pétrole, a affirmé le ministre sud-soudanais de la Défense, qui accuse le camp rebelle de vouloir reprendre la capitale d'un autre état-clé. Dans le Haut-Nil, au nord-est, des bombardements d'artillerie ont été signalés à plusieurs endroits de la région de Renk lundi et aujourd'hui, a précisé à l'AFP le ministre de la Défense, Kuol Manyang. Selon lui, de nombreux civils ont été blessés et de nombreuses maisons détruites. Le Soudan du Sud est ravagé depuis décembre 2013 par un conflit civil déclenché par une rivalité à la tête du régime entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar.
En Égypte, l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, sera jugé le 23 février dans un 5e procès devant un tribunal militaire cette fois, pour incitation au meurtre en marche de manifestation, ont indiqué ce mardi des sources judiciaires. Le premier chef de l'État élu démocratiquement en Égypte, encourt déjà la peine de mort dans 4 autres procès. Le procureur militaire a ordonné qu'il soit jugé pour avoir incité au meurtre 31 personnes, au meurtre de 31 personnes tuées à Suez, dans l'Est, en marche de manifestation de ses partisans. Ces incidents se sont déroulés notamment le jour où policiers et soldats ont tué plus de 700 manifestants pro-Morsi au Caire. C'était le 14 août 2013. Or, ce jour-là, M. Morsi était déjà détenu par l'armée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, les rebelles pro-russes sont rentrés ce mardi dans la ville stratégique de Debaltsev, dans l'est du pays. Des combats acharnés ont éclaté dans les rues, une dégradation de la situation survenue malgré la nouvelle trêve et un round de négociations téléphoniques au plus haut niveau. Félix Sipassi-Zimbrou.
Les combats qui faisaient rage depuis des semaines autour de cette ville, quasiment encerclée, se sont déplacés à l'intérieur de la ville et se déroulent en face à face, selon l'AFP qui cite des sources policières régionales. L'entrée des rebelles à Debaltsev, nœud ferroviaire situé entre Lugansk et Donetsk, les deux capitales des républiques séparatistes de l'Est de l'Ukraine, a été confirmée par un porte-parole militaire ukrainien, qui a néanmoins minimisé son ampleur. Kiev, qui a annoncé mardi avoir perdu 5 soldats en 24 heures, soit 10 au total depuis le début de la nouvelle trêve instaurée ce week-end, affirme respecter pleinement le cessez-le-feu et de ne faire que riposter aux attaques rebelles. Les combats à Debaltsev ont été abordés lors de plusieurs entretiens téléphoniques du président ukrainien Petro Porochenko, qui en a discuté lundi soir avec le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel, mais aussi avec celle-ci et le président russe Vladimir Poutine, avant de discuter avec le secrétaire d'État américain John Kerry.
En Syrie, les forces gouvernementales ont lancé une offensive. C'était pour prendre en tenaille les quartiers rebelles d'Alep. Cette offensive a commencé le jour même où le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, doit présenter au Conseil de sécurité un rapport sur sa mission visant à stopper la guerre ravageant ce pays depuis 4 ans.
Tragédie en Haïti où au moins 18 personnes sont mortes électrocutées et 15 autres blessées la nuit dernière suite à la chute d'une ligne électrique. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'accident a eu lieu au carnaval de Port-au-Prince, au passage d'un char qui transportait Barricade Crew, un groupe de rap très populaire. Selon des témoins, quelqu'un à bord du char a utilisé un objet pour soulever le câble électrique haute tension et permettre au véhicule de passer. Le câble s'est rompu, électrocutant des danseurs et des musiciens. Selon la station haïtienne Radio Métropole, Phantom, le chanteur vedette du groupe Barricade Crew, fait partie des personnes directement touchées par le câble et est dans un état critique. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu à l'hôpital général de Port-au-Prince affirme avoir vu de nombreux blessés aux urgences. Port-au-Prince a lancé dimanche son carnaval, le plus important de la Caraïbe. La musique et la danse en sont les principales attractions.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Timothée Donongmaï.
L'Afrique comptera plus de 350 millions de smartphones d'ici 2017. C'est ce qui ressort d'une étude du cabinet Deloitte publiée hier. Selon cette firme, le marché est stimulé par une forte croissance des économies africaines et catalysé par l'arrivée des smartphones à bas prix qui, dit-elle, démocratisent l'accès au numérique. Selon l'AFP, la principale conséquence de ce boom programmé des smartphones sera le développement du paiement par mobile en Afrique. La compagnie russe Rostec affirme avoir été sélectionnée pour la construction de la première raffinerie de pétrole en Ouganda. Le coût de cet investissement, 3 milliards de dollars. D'une capacité de 60 000 barils par jour, le complexe traitera le pétrole brut provenant des réserves du bassin du lac Albert près de la RDC et pourra exporter des produits raffinés vers les pays voisins. L'amélioration de la situation sécuritaire en Somalie relance la compétition dans le secteur aérien. Les compagnies régionales Dahalo Airlines et Juba Airways, qui exploitaient indépendamment le ciel somalien, ont été obligés de fusionner pour faire face à l'offensive des transporteurs internationaux comme Turkish Airlines, Ethiopian Airlines ou encore Fly Dubai, signale Reuters. Enfin, l'exécution en Libye de 21 chrétiens coptes égyptiens a braqué les feux de l'actualité sur la situation économique dans leur pays d'origine. Avec la moitié de ses 90 millions d'habitants âgés de moins de 25 ans et un taux de chômage de 13%, l'Égypte voit des milliers de ses fils aller dans les pays voisins, notamment la Libye, en quête d'emploi.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Timothée Donongmaï.
Et on passe tout de suite au sport avec Bagassi. Courant en Europe, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Bagassi.
Oui, plusieurs affiches alléchantes aujourd'hui et demain. D'abord, le Bayern Munich qui a retrouvé sa force de frappe sera en Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk. Selon l'AFP, l'équipe allemande ne verra pas Donetsk. La guerre civile a obligé le Shakhtar à s'exiler pour la Ligue des Champions à Lviv, à 1250 km de sa Donbass Arena, une enceinte utilisée pour la distribution d'aide alimentaire.
L'autre affiche entre Paris et Chelsea.
Oui, et ça sonne comme la revanche du quart de finale de l'an dernier, quand les Londoniens avaient éliminé sur le fil au retour l'équipe de Paris. Mais depuis ce week-end, le combat s'annonce déséquilibré selon l'AFP, qui signale plusieurs blessés du côté du PSG, dont l'Ivoirien Serge Aurier, qui est forfait.
Qui va remplacer le Belge Paul Put à la tête des étalons du Burkina Faso, Bagassi?
Voilà, selon Radio Omega à Ouaga, il s'agit pour le moment du franco-allemand Guenroor, du Nigérian Stephen Kessié, du Serbe Milovac Rachevac. Et donc, c'est parmi ces trois-là qu'on va trouver le successeur de M. Put. Au plus tard, dans 2 semaines, on devrait connaître donc le nom du sélectionneur. Chirouin, des anciens vice-champions d'Afrique.
Oui, tu vas me le rappeler. Ancien vice-champion, ça fait un peu longtemps. Hier, on a joué la première journée du groupe B du championnat d'Afrique de moins de 17 ans.
Oui, cette journée a été marquée par une entrée en force du Mali qui a écrasé le Cameroun aux 3-1. Quant aux éléphantaux de Côte d'Ivoire, ils ont fait un match nul 2-2 avec les Bafana d'Afrique du Sud.
La Fédération marocaine de foot a saisi le tribunal arbitral du sport. Pourquoi?
Oui, c'est suite aux sanctions infligées par la CAF suite au refus du Maroc d'accepter d'organiser la CAN 2015 sur son territoire. Le Maroc a été suspendu par la CAN 2017, des CAN 2017 et 2019, après avoir refusé, bien sûr, d'organiser cette édition 2015 de la CAN qui était prévu aux dates de janvier. Et donc, la fédération marocaine a été également condamnée à verser de fortes sommes d'argent. On parle de 9 millions d'euros, 1 million de dollars d'amende et 8 millions et 50 000 euros au titre des réparations et préjudices.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcil et Morgane Diriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Et nous mettons le cap sur le Niger, Gabi.
Oui, des milliers de personnes sont sorties ce matin, Morgane, dans différentes villes du Niger pour marcher en soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre la secte islamiste nigériane Boko Haram. Eh bien, cette secte a attaqué le pays pour la première fois la semaine dernière. On écoute le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Hymne national entonné en chœur par les milliers de manifestants réunis à la place de la Concertation. Lecture, puis remise d'un mémorandum des forces vives de la nation au chef suprême des armées, le président de la République Issoufou Mahamadou.
Monsieur le président de la République, on n'attaque pas le Niger impunément. Et Boko Haram l'a appris à ses dépens le 6 février dernier. Parce que ce jour-là, nos forces de défense et de sécurité ont écrasé Boko Haram. Nos forces de défense et de sécurité ont donc la volonté de se battre. Et le soutien que vous leur apportez aujourd'hui, que nous leur apportons aujourd'hui, renforcera leur morale, leur volonté de se battre. Inch'Allah, le Niger sera le tombeau.
Les manifestants se disent plus que jamais déterminés à soutenir les forces de défense et de sécurité engagées dans cette lutte contre Boko Haram.
Nous sommes fiers de nos soldats et je voudrais dire quelque chose ici. Qui s'y frotte, s'y pique.
C'est celle qui consiste à se mettre tous ensemble pour lutter en bloc contre ce fléau, contre cette calamité que constitue Boko Haram. Boko Haram, on l'a dit, est haram. Donc nous devons au Niger démontrer à la face du monde que nous allons booster hors de nos frontières cette épidémie, Inch'Allah.
La manifestation a été organisée simultanément dans les autres villes du pays, à l'exception bien sûr de Diffa, qui a été la cible des attaques de la secte, ayant appelé leurs militants à boycotter la marche. Aucun leader de l'opposition n'a été aperçu ce matin dans la foule. Abdoul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Nous avons gagné le pari.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur En Famille FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Nigeria, une explosion et des coups de feu ont retenti ce mardi au cours d'un meeting électoral du principal parti d'opposition à Okrika, dans l'état pétrolier de Rivers. Par ailleurs, dans le nord du pays, Boko Haram distribue des tracts avertissant les populations de s'abstenir de voter aux élections nationales du 28 mars. La sécurité est encore plus précaire dans la région et des familles s'empressent de s'éloigner des potentiels foyers de tension. Par ailleurs, on se prépare à des troubles après la publication des résultats.
Du delta du Niger à l'extrême nord-est, la période préélectorale est devenue un moment de migration pour nombre de Nigérians. Notre envoyé spécial, Anne Luke, a rencontré plusieurs d'entre eux dans les rues de Kaduna.
Ma femme n'a pas cessé de me harceler depuis 3 mois. Même aujourd'hui, elle m'a appelé pour me dire « Sommes-nous prêts à nous déplacer vers un endroit plus sûr ?»
Personne ne veut mourir pour rien. Moi-même, j'ai l'intention de déménager dans la partie sud de Kaduna, où je ne serai pas exposé au bruit de guerre, aux tambours de crise, aux gens brûlant des pneus, aux gaz lacrymogènes et autres.
Le dernier vote à l'échelle nationale au Nigeria en 2011 a été salué comme plus crédible que toutes les précédentes élections. Mais plus de 1000 personnes ont été tuées, la plupart lors de violences post-électorales, et surtout dans l'état de Kaduna, où la politique a suscité des tensions communautaires. Les élections de 2015 promettent d'être les plus âprement disputées dans l'histoire du Nigeria. Le président Goodluck Jonathan et le parti au pouvoir, le PDP, sont confrontés à une forte opposition de l'APC et de son candidat, l'ancien dirigeant militaire Muhammadu Buhari. Les électeurs sont anxieux au sujet de la période post-électorale.
Nous
allons prendre notre temps, dit cet homme de Bauchi. Nous irons voter et nous allons rester à l'intérieur de nos maisons et nous allons examiner la façon dont le vote a lieu et l'issue de celui-ci. Mais certainement, nous devons voter. Le chef de la police du Nigeria a publié une déclaration ce mois-ci essayant de rassurer les électeurs et leur demandant d'arrêter leur migration vers d'autres régions du pays. Mais les incidents préélectoraux se sont accumulés. Des sièges de partis ont été attaqués à la bombe ou vandalisés. Des partisans de l'opposition disent qu'ils ont été agressés dans l'état de Rivers. Un kamikaze s'est fait exploser à Gombe alors que le président Goodluck Jonathan sortait d'un meeting électoral. La Commission électorale nationale indépendante a reporté les élections de 6 semaines, soit au 28 mars, après que les forces de sécurité ont dit avoir besoin de plus de temps pour combattre Boko Haram dans le nord-est et garantir la sécurité des élections.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Centrafrique, le Conseil national de transition, qui tient lieu de parlement provisoire, a adopté un avant-projet de loi de constitution qui sera transmis au gouvernement avant d'être soumis aux électeurs par voie de référendum. L'une des grandes nouveautés de la proposition de loi prévoit la création d'un Sénat. Félix Epassi-Zimbrou a joint le président de la commission de loi au CNT, Blaise Fleury-Otto.
Au moins dans cette constitution, on a pu régler un certain nombre de problèmes. Donnons par exemple à la question des principes de la République, à la question de la limitation du pouvoir de nomination du président de la République, quitte est autorisé bien évidemment à procéder à certaines nominations, mais pour d'autres nominations, il sera tenu de respecter la liste fixée par la loi. Cela voudrait dire qu'il devra donc obtenir l'autorisation ou l'avis du Congrès, puisqu'il y a le Sénat qui fait partie des institutions républicaines. Mais en plus, pour tout ce qui est contrat touchant aux ressources naturelles de la République centrafricaine, il faudrait absolument l'avis de l'Assemblée nationale avant que les contrats ne soient signés.
Autrement dit, Monsieur Blaise Fleury-Otto, la nouveauté dans cette proposition de loi sera donc la mise en place du Sénat.
Il n'y a pas que la mise en place du Sénat. Il y a des garanties que nous avions mises pour éviter aux futurs chefs de l'État ou aux futurs dirigeants de notre pays d'abuser de leur autorité. À titre d'exemple, lorsque les institutions sont mises en place, il y a un délai constitutionnel par rapport auquel toutes les institutions doivent être mises en place. Mais en République centrafricaine, il y a encore quelques années, il y a par exemple, l'institution Haute Cour de justice, devant laquelle peuvent être traduits soit le chef de l'État, soit les membres du gouvernement ou les députés, qui n'avaient pas été mis en place de manière effective. Et ça a posé un énorme problème quant aux questions de forfaiture ou de haute trahison dont s'étaient rendus certains dirigeants de notre pays.
Blaise Fleury-Otto, le président de la commission de loi au CNT.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Rendons-nous maintenant au Burundi, où le collectif Campagne citoyenne halte au troisième mandat se dit déterminé à poursuivre les efforts visant à amener le président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 à renoncer à un troisième mandat. Dimanche, le conseiller présidentiel Willy Nyamitwe a déclaré à l'AFP que le président Nkurunziza a toujours dit que c'est son parti, le CNDD-FDD, qui choisira son candidat dans le respect de la Constitution. Timothée Dongmaï a recueilli la réaction de maître Armel Niyongere du collectif Campagne citoyenne, halte au troisième mandat.
On avait écrit une correspondance à son excellence le président de la République. Donc on attend qu'il nous réponde par voie de la correspondance. Sinon, nous allons continuer à se battre contre le troisième mandat du président de la République. On a déjà lancé une campagne contre le troisième mandat. On a des activités déjà prévues. Et donc, on va se réunir pour voir les propos tenus par le porte-parole du président de la République pouvoir et stratégie qu'on devrait adopter pour cadrer et continuer notre campagne.
Mais selon le conseiller du président, c'est le CNDD-FDD qui choisira son candidat.
Que ce soit le parti CNDD-FDD, que ce soit les membres du conseil de sage, que ce soit quelle structure, nous allons continuer à montrer que le président Nkurunziza ne peut pas briguer un troisième mandat. Vu la constitution de la République du Burundi, vu les accords d'Arusha, vu l'esprit des accords d'Arusha, on voit que ça serait une violation flagrante de la loi.
Et au cas où le président briguerait un troisième mandat, qu'est-ce qui se passerait?
Je pense qu'il pourrait y avoir des difficultés dans la gestion politique au Burundi, puisqu'il y a beaucoup de catégories de personnes qui se sont exprimées sur le troisième mandat. Il y a surtout l'Église catholique, il y a certaines organisations de la société civile, certains partis politiques, il y a la population qui s'exprime via les médias. Donc, toutes ces catégories de personnes qui s'insurgent contre le troisième mandat du président de la République, je pense que le président devrait considérer cela comme une alerte de la population par rapport à cette violation de la Constitution.
Mais dans le camp du président, on dit que ce dernier n'a été élu au suffrage universel qu'une seule fois.
On dit, dans l'esprit des accords d'Arusha, que nul ne peut dépasser 10 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait 10 ans au pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas prêté serment deux fois? Donc, je pense que ça, c'est une interprétation des personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir.
Armel Niongere, du collectif Campagne citoyenne Halte au troisième mandat, joint à Bujumbura.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le film africain Timbuktu en lice pour les Oscars 2015. Des artistes comme la chanteuse Angélique Kidjo et le réalisateur Abderrahman Sissako sont internationalement reconnus. Et la question de la semaine, les artistes africains ont-ils un rôle à jouer dans l'essor et la stabilité du continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre. Notre sujet de cette semaine, nous parlons cinéma. Les difficultés que rencontrent les cinéastes africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. 11 personnes ont été tuées cet après-midi dans une nouvelle attaque suicide près de Biou, dans le village de Yamar Koumi, dans l'état de Borno.
Par ailleurs, des centaines de villes d'Askira Ouba et des accrochages ont également eu lieu au Cameroun.
C'est dans ce contexte de violence que les Nigériens ont battu le pavé aujourd'hui pour dénoncer les crimes de Boko Haram.
En Centrafrique, le Conseil national de transition qui tient de parlement provisoire a adopté un avant-projet de loi de constitution qui sera transmis au gouvernement avant d'être soumis aux électeurs par voie de référendum. L'une des grandes nouveautés de la proposition de loi prévoit la création d'un Sénat.
En Ukraine, les rebelles pro-russes sont entrés ce mardi dans la ville stratégique de Debaltseve, dans l'est du pays. Des combats acharnés ont éclaté dans les rues, une dégradation de la situation survenue malgré la nouvelle trêve et un round de négociations téléphoniques au plus haut niveau, Morgan.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Oui, la météo, il fait très froid ici à Washington, c'est moins 2 degrés centigrades. Il faut dire que toute la côte est des États-Unis a été frappée hier soir par une tempête de neige jusqu'en Géorgie. On a dû fermer les écoles et les bureaux. Parce qu'il fait extrêmement froid là-bas.
Et vous avez dû bien nettoyer pendant des heures autour de chez vous la neige, Gabi.
Ah, il faut garder notre petit secret.
La mise en onde de cette édition a été assurée par Lionel Gaïma. À la présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.